France Musique. Musique Matin. Saskia Deville. France Musique.
Nous sommes le samedi 25 janvier. Soyez les bienvenus sur France Musique. Laurent Lefrançois est à la réalisation, Cindy Le Grumelec et Morgane Danan à la technique. Bienvenue à vous dans cette émission que nous consacrons aux pratiques amateurs, au chant choral et au plaisir de la musique. Et le menu du jour, le voici. À 8h, Christophe Chassol et Léonore, notre jeune pianiste de 9 ans, nous parlerons de piano percussif. À 8h20, dans notre reportage, nous irons visiter le Centre de musique de chambre de Paris. À 8h30, dans sa chronique Battement de cœur, Marc-Olivier Dupin nous parlera du cœur de l'armée française. Notre invité du jour sera Geoffroy Jourdain, chef d'écrit de Paris. Nous évoquerons les actions pédagogiques menées par l'ensemble dans la région Grand Est. Et puis enfin, Roselyne Bachelot nous racontera la véritable histoire du Don Carlo de Giuseppe Verdi. Je vous souhaite un délicieux réveil à l'écoute de France Musique. Plonger dans le Grand Nord ce matin. C'est d'ailleurs ce que vous propose l'Orchestre National d'Île-de-France pour une série de concerts. L'orchestre qui nous convie un petit peu partout en Île-de-France ces jours-ci à ce voyage à travers la Finlande, notamment sur les traces de Sibelius, avec ce magnifique concerto pour violon en ré mineur dont nous écoutions le premier mouvement interprété par la jeune violoniste norvégienne Vilde Frang. Le concerto sera aux côtés de l'Orchestre National d'Île-de-France interprété par Simone Lamsma, jeune violoniste à découvrir. L'orchestre placé sous la direction de Case Skaglion, son nouveau chef principal et directeur musical, qui jouera demain donc au théâtre de Hier, mardi à Villacoublay, jeudi à Paris et vendredi à Rungis. Plus d'infos sur le site de l'orchestre www.orchestre-île.com. Musique Matin, Saskia Deville, France Musique. Et chaque semaine, je sélectionne pour vous un livre disque pour faire découvrir la musique aux enfants. Aujourd'hui, j'ai donc choisi Big Mama Trombone, un conte musical de Claude Clément, raconté par la géniale Yolande Moreau. Un livre disque avec et autour du trombone, paru dans la collection Little Village d'Harmonia Mundi. Livre disque illustré par Lucie Van de Velde et qui comprend, outre l'histoire, des pages documentaires consacrées au trombone. Mais il y a surtout cette histoire, celle de Big Mama, la grand-mère de Célia, qui passe la journée derrière les fourneaux dans le bistrot familial, tout en jouant du trombone à coulisses pour se détendre. Toute sa famille, excepté Célia, se plaint de son instrument. Big Mama décide alors d'arrêter de jouer pour les clients. Mais chaque soir, après le service, elle disparaît, jusqu'au jour où Célia la suit discrètement.
Alors, un soir, elle suit discrètement sa grand-maman dans le noir, en compagnie du chat Ratafia. Où Big Mama se rend-elle ainsi avec son trombone chéri? La voici qui pénètre dans l'antre d'un étroit bâtiment. Sur la façade illuminée, des lettres colorées n'arrêtent pas de clignoter. Le petit cachot musical. Là, elle entend résonner plusieurs instruments qui s'accordent tous en même temps. La fillette approche à pas de loup du local. Grimpée sur un pot de fleurs, au sommet d'un bric-à-brac de poubelles, de bidons et de cartons, la fillette jette un coup d'œil à l'intérieur. Oh ! Surprise ! Avant de se mettre à répéter, les musiciens de Mickey Mille-Doigts se dégourdissent les phalanges. Puis ils se délectent de toutes les bonnes choses que Big Mama leur a apportées dans l'étui de son trombone. De minuscules boudins faits maison, des tranches de saucisson, ces fameux petits pains moelleux et des mini-gâteaux en veux-tu en voilà. Oh, Mickey, je me souviens du bon vieux temps où nous apprenions la musique après la sortie de l'école. Seule ma famille n'appréciait pas. On me prenait pour une folle avec mon style trop rock'n'roll. Te souviens-tu de ce morceau-là ? Oh, Oh oui, dit Mickey, et même de celui-là. Entre deux pièces de musique, Big Mama se régale avec ses amis. Elle doit bien prendre quelques kilos de plus et de trop. Ben, tant pis.
Et la suite de l'histoire de Big Mama Trombone est à découvrir dans ce livre disque, ce conte musical de Claude Clément raconté par Yolande Moreau et paru dans la collection Little Village d'Harmonia Mundi. Il est 7h et presque 53 minutes et je vous offre ce matin des places pour la folle journée de Nantes pour le concert que le trio Karénine offrira le samedi 1er février prochain à 14h45. Fanny Robiliard au violon, Louis Rode au violoncelle, Paloma Cuider au piano. Ils mettront Beethoven à l'honneur bien sûr avec ses trios numéro 1 et numéro 5. Pour tenter votre chance, rendez-vous sur francemusique.fr, sur la page de l'émission Musique Matin. Vous nous envoyez vos coordonnées et puis la bonne réponse à la question qui va suivre et vous recevrez peut-être deux places dans votre boîte aux lettres d'ici quelques jours. Ce matin, je vous propose de deviner d'où vient le nom de ce trio Karénine. Trois propositions. Est-ce le nom d'une héroïne, d'un roman de Tolstoï, d'un roman de Victor Hugo ou d'une bande dessinée de Hergé ? Si vous avez la bonne réponse, une seule adresse, francemusique.fr. Bonne chance à vous. Le sixième mouvement de ce quatrième trio, trio Doumki d'Antonin Dvorak, interprété par le trio Karénine, extrait de ce disque sorti en octobre dernier en partenariat avec France Musique chez Mirare. D'où vient le nom de ce trio Karénine, d'un roman de Tolstoï, d'un roman de Victor Hugo ou d'une bande dessinée de Hergé? Si vous avez la bonne réponse, tentez votre chance sur francemusique.fr pour remporter vos places pour le concert que le trio Karénine offrira le 1er février prochain à 14h45 dans le cadre de la Folle Journée de Nantes.
Tour de chant, c'est chaque semaine un rendez-vous avec des personnages de la chanson française du XXe siècle. Interprètes, auteurs, compositeurs sont évoqués à travers leurs chansons et des archives savoureuses issues des trésors de l'INA. Succès et raretés sont réunis pour redécouvrir toute la mémoire de la chanson, cette culture intime qui nous accompagne si bien au quotidien. Tour de chant, tous les dimanches à 12h30 sur France Musique et sur francemusique.fr.
Lundi 27 janvier à 20h, Okora Couleur du Monde vous invite au Carreau du Temple à Paris pour une soirée concert de création. Avec le trio Éric Truffaz, Sandrine Bonner, Marcello Giuliani autour des textes de Marguerite Duras. Ensuite, Kevin Sedicki et Jean-Louis Matinier pour une trajectoire de Jean-Sébastien Bach à John Coltrane. Et pour finir, dans l'esprit ancestral d'une traditionnelle cérémonie du thé, Katsura Création et le trio Trois Parfums. Réservation sur maisondelaradio.fr. À lundi, on vous attend à 20h.
France Musique.
France Musique.
Vous allez l'adorer.
Vous allez l'adorer.
Très bon réveil en ce samedi 25 janvier, il est 8h.
Chère auditrice, chère auditeur. Chère auditrice, chère auditeur.
La chronique de Christophe Chassol, c'est chaque samedi à 8h, bien sûr, sur France Musique. Bonjour Christophe.
Bonjour Saskia.
Et puis tout ce mois de janvier, nous sommes accompagnés par une jeune pianiste très talentueuse, Léonore, 9 ans. Bonjour Léonore.
Bonjour.
Bienvenue à tous les deux. Alors aujourd'hui, dernière chronique, on va parler improvisation, on va certainement parler dissonance, je ne sais pas pourquoi. Et puis on va parler piano percussif aussi, oui. Christophe.
L'improvisation, c'est super parce qu'on peut vraiment s'amuser pendant des heures au piano. Et je vais te donner une petite technique qui va faire que tu vas pouvoir passer toute la journée, toutes les nuits à faire du piano, voilà. Normalement.
Est-ce que tu as déjà composé un morceau, toi, Léonore?
Oui.
C'est vrai?
Oui. Mais je m'en souviens plus.
Mais voilà, bon, on va passer peut-être à ta deuxième composition aujourd'hui en compagnie de Christophe Chassol.
Eh ben oui, peut-être. Alors moi, non pas du tout à ton âge, mais en fait, bon, moi j'ai commencé la musique classique, après j'ai fait du jazz, et dans le jazz on improvise. Mais moi, j'étais pas très bon à improviser, donc j'ai développé autre chose, qui est une façon de jouer le piano qui m'a permis d'improviser. Et c'est de considérer le piano comme une batterie ou comme une percussion, sur laquelle on tape, on fait des rythmes. Et après, de se balader en changeant de notes. Je vais te la montrer, cette technique. Mmh. Et puis après, tu vas essayer, toi, d'accord?
D'accord.
Alors, c'est une technique, comme ça, je te montre. Oui. Tu fais d'abord une note. Tu fais une note. Puis après, tu t'en occupes plus de cette note. Bon, on va prendre Do, hein. Do, c'est facile. Voilà, je fais Do. Et après, je fais un rebond avec mon autre main. Et après, je me dis, tu sais, pendant que je suis en train de jouer mon Do, je me dis, déjà, je vais faire une autre note que le Ré. Et puis je rajoute deux notes. Là, je mets la pédale. Je ralentis. Voilà, c'est l'idée de faire un rebond comme ça, de te servir de tes doigts comme une percussion. Donc là, ce que je voudrais déjà, c'est que tu réfléchisses même pas aux notes, mais que tu joues comme si tu faisais un rythme de batterie sur le piano. Super. Ne réfléchis pas. Il n'y a pas de fausse note. Ouais. Utilise deux doigts à ta main droite. Tu vois, les uns après les autres, comme ça. De. Ouais, c'est très bien. Alors, tu sais, par exemple, oui. Ce qui compte, c'est d'arriver à oublier presque ta main gauche, d'oublier que tu es en train de faire. Et là, tu te balades. Tu réfléchis, tu prends ton temps. Ah, tiens, quelle autre note vais-je faire après ? Tiens, si je faisais un sol. Tu prends ton temps, tu laisses ça, tu sais. Ça, c'est comme l'autoroute.
Mais si ça va pas avec le dos ?
Pourquoi ? Mais qu'est-ce qui ne peut ne pas aller avec le dos ?
Il a des notes où ça va pas très bien avec le dos, non ?
Ah non, toutes les notes vont avec le dos. Tu trouves pas ? Tu viens de comprendre qu'il n'y a pas de fausses notes.
Oui.
Y a pas, c'est ce qu'on a vu avec les dissonances, oui. Tu sais, la première fois. Oui. En fait, tout va avec. Tout va avec tout. Tu peux faire ce que tu veux. Ce qui compte, c'est l'intention. Tu comprends l'intention ? Qu'est-ce que ça veut dire, l'intention ? En fait, ça veut dire que c'est comment tu vas l'interpréter qui compte.
Oui.
Tu vois, il n'y a pas de fausses notes. Ça, ça marche. Comme on a vu avec les dissonances. Donc, vas-y, change de note et mets la pédale cette fois. Et fais une note plus grave, tu vois. C'est ce qu'on appelle les intervalles, et que tous les intervalles ont une nature, c'est-à-dire qu'ils expriment quelque chose. Et là, ta note de basse, c'est ton référent. Tout va dépendre de la première note que tu fais, toi. Fa, mi, do, ré, si, la, fa, mi, la. T'as saisi ?
Oui.
Ouais ?
Oui.
Il n'y a pas de fausse note, en gros.
Oui.
Dis-moi.
Bah avant je croyais que une note bah ça pouvait pas être correct.
Moi je comprends, mais en fait si.
Oui.
Mais voilà, on apprend tout. Finalement, merci beaucoup Christophe et merci à Éléonore de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois de janvier.
Merci beaucoup,
pour ces chroniques, c'était vraiment.
C'est super.
Super, bravo Léonore. Et puis bravo Christophe aussi, allez quand même, pour vos chroniques.
Bah moi j'ai appris des choses aussi.
Exactement, moi aussi, hein. Et nos auditeurs certainement. Une chronique à podcaster sur francemusique.fr, bien sûr, je vous souhaite une très belle semaine, plein de beaux projets, une bonne continuation. Léonore, et puis on espère à très bientôt dans les studios de France Musique. Bonne semaine.
Bonne semaine.
Bonne semaine. Thank you.
et un rondo énergique. Troisième mouvement de ce deuxième concerto pour piano de Beethoven, interprété par Christian Bezuidenhout en soliste, Pablo Errázkázadu à la direction des musiciens de l'orchestre baroque de Fribourg, musiciens qui ont choisi de se lancer dans une passionnante trilogie concertante sur instruments d'époque, une intégrale des concertos de Beethoven à l'occasion du 250e anniversaire de sa naissance que nous fêtons en 2020 et dont vous avez déjà certainement entendu parler sur France Musique et ailleurs. Premier volume donc de cette intégrale qui vient de paraître chez Harmonia Mundi avec ce deuxième concerto, mais également le cinquième, L'Empereur, à découvrir.
1, 2, 3.
Tu vois, toi, t'as de la chance de faire de la musique. Pourquoi n'en fais pas ?
Et dans cette émission, nous nous intéressons au chant choral. Ça, ce sera d'ici quelques minutes avec Marc-Olivier Dupin. Nous nous intéressons aussi à la pédagogie, à la transmission, aux pratiques amateurs. Ces amateurs qui jouent pour leur propre plaisir, comme ceux de l'Orchestre des Universités de Paris, formation qui regroupe chaque année une centaine d'étudiants instrumentistes amateurs, des jeunes passionnés de musique, dirigés par Carlos Durté, qui accueille le temps de concerts de solistes prestigieux. Et lors du concert qu'ils donneront d'ailleurs le 3 février prochain, lundi 3 février prochain à 20h au Grand Amphithéâtre de la Sorbonne, c'est le premier violoncelle solo de l'Orchestre Philharmonique de Berlin, s'il vous plaît, sera de Gleller, pardon. Brano de Lepeller sera le soliste du concerto d'Anthony Dvorak que je vous propose d'écouter.
Thank you.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
8h20, c'est l'heure de notre reportage. Bonjour Marie Jiquel.
Bonjour Saskia.
Il fait encore nuit dehors en ce samedi matin hivernal. Et Marie, vous nous proposez une partie de pêche. Le Centre de musique de chambre de Paris propose un concert-spectacle exquis autour de la truite de Franz Schubert. Seule quintette avec piano composée par le compositeur autrichien qui n'a alors que 22 ans. Et on va découvrir ce matin, Marie, que la truite peut être un animal sexy.
Vous pouvez nous faire le bruit de la truite.
Pour la radio, quelque chose comme ça.
Bon alors Saskia, je vous propose de déguster une truite un samedi à 8h20. C'est peu ragoûtant, mais vous allez savourer un plat plutôt délicieux. C'est Jérôme Pernaud, le directeur du centre, qui nous titille les papilles.
Mais finalement, dans ce spectacle, la truite, je la transforme un peu en sushi, hein, parce que entre les mouvements, on fait un lead par-ci, un cas de main par-là, et puis on raconte toute cette histoire justement des Schubertiades avec ce chanteur, ce baryton, Monsieur Vogel, qui reçoit chez lui ses amis pour leur faire découvrir les dernières mélodies que Schubert a écrites. C'est une soirée.
Alors, derrière cette truite, il y a surtout un Schubert amoureux d'une aristocrate hongroise, Caroline Esterházy. C'est Caroline Simiuski, la violoncelliste, qui nous raconte les coulisses de la composition de cette pièce.
Alors, leur histoire à eux, c'est qu'il était amoureux d'elle, mais elle était d'un rang trop élevé. Du coup, ça ne s'est jamais concrétisé, je crois. Et a priori, elle a pu être un peu amoureuse de lui aussi, mais elle ne s'est jamais autorisée. Du coup, elle s'est contentée de prendre des leçons de piano avec lui et il faisait des quatre mains pour avoir une petite proximité.
Doch endlich ward dem Diebe die Zeit zu lang. Er macht das Bächlein tückisch.
Et sur scène, Jérôme Pernaud disait, l'ambiance salon est recréée. On repart dans les années 1820 avec un décor qui met à l'aise, tapis, lampe de chevet et quelques petits verres.
Les musiciens jouent en déambulant, c'est vraiment la signature du centre de musique de chambre, devant un public et quelques invités chanceux qui prennent place directement sur scène. Une mise en scène virevoltante qui reflète l'esprit du poisson d'eau douce. Bref, une atmosphère toujours accueillante et vivante comme Jérôme Pernaud sait l'insuffler.
La recette de cette truite, c'est que les musiciens font venir le public sur scène, qu'ils leur offrent un petit coup de vin blanc à boire, parce que Schubert...
Est-ce que c'est vraiment du vin blanc ?
C'est vraiment du vin blanc, et vous savez, il y a une grande tradition de vin blanc en Autriche, et Schubert adorait aller dans les Heurichers, où on fait le vin blanc sur place. Hein. Et puis surtout, la recette, c'est qu'on travaille beaucoup pour jouer par cœur, pour mettre en scène tout ça, pour se déplacer en jouant, et finalement faire comme si c'était complètement naturel, et puis arriver à ce qu'on ne voit plus aucune trace de travail.
Enfin, cette truite qui est réellement incarnée par Ilan Zetman au piano et Caroline Sipniewski au violoncelle cache surtout une métaphore.
C'est quand même une histoire sympathique, ce poème qui raconte l'histoire de cette truite qui va, attention, qui va se faire avoir. C'est un avertissement pour toutes ces jeunes filles qui risquent de se faire avoir. Alors attention, attention.
En fait, surtout le poème qui a servi pour le lead qui est chanté là ce soir, qui était à l'origine du quintet, donc c'était d'abord un lead puis le quintet, et le poème, en fait, il y a un dernier couplet qui n'est pas chanté parce qu'il ne l'a pas mis, mais en gros, la truite, ça représente les jeunes filles qui se font attraper quand elles se font draguer, voilà.
Bon alors, Saskia, moi, l'avertissement que je vous donne, c'est que quelqu'un tente de se faire passer pour vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter au micro, s'il vous plaît ?
Oui, bonjour. Alors, je suis Saskia Deville, j'ai 78 ans.
Voilà, donc on embrasse Jérôme Pernaut.
Évidemment, merci beaucoup Marie. Alors, la truite de Franz Schubert, c'est un concert, spectacle d'une heure à découvrir donc au Centre de musique de Chambre de Paris jusqu'au 1er février prochain. Représentation chaque jeudi, vendredi et samedi à 21h. Vous n'avez donc aucune excuse. Il est 8h25.
Thank you.
Un extrait du quatrième mouvement de ce quintet de la truite de Franz Schubert avec un magnifique casting, Anne-Sophie Mutter, Daniil Trifonov, Eywon Lee, Maximilian Hornung et Roman Patkolo. Il est 8h30. Et nous accueillons à présent Marc-Olivier Dupin pour sa chronique Battement de cœur. Bonjour Marc-Olivier.
Bonjour Saskia.
Quel est notre sujet du jour ?
Alors nous allons passer un petit moment avec le cœur de l'armée française, la garde républicaine, un cœur d'homme dirigé par une femme formidable, Aurore Tillac. Alors ce cœur a des missions très spécifiques puisqu'il y a des fonctions protocolaires, culturelles, mais aussi festives. Et le répertoire premier est évidemment ce qui concerne les hymnes, les musiques patrimoniales liées à notre histoire, la Marseillaise, le chant des partisans, des choses comme ça. Et on va écouter une très belle marche, moi, que je ne connaissais pas et que j'ai découvert grâce à vous, grâce à cette petite chronique. On va entendre un extrait de la marche Lorraine.
Allez Marc-Olivier, vous ne connaissez pas, même moi en tant que belge, je connais cette chanson.
J'étais trop bon élève dans les conservatoires, peut-être, je ne sais pas.
Cela dit, quel autre répertoire chante-t-il ?
Alors, grâce à Aurore Tillac notamment, ils ont beaucoup ouvert leur répertoire, qui va donc de ce répertoire bien connu, lié à la garde républicaine, jusqu'à des choses de l'ordre de la chanson, du chœur de chambre, enfin il y a toutes sortes de formes, et on va d'ailleurs entendre, par les solistes, il y a un petit groupe de solistes qui s'est réuni pour chanter un extrait des Feuilles mortes de Cosma.
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.
Mais la vie sépare ceux qui s'aiment.
Marc-Olivier, comment est-on admis à chanter dans ce chœur professionnel ?
Alors, comme dans beaucoup d'autres chœurs, c'est un système d'audition à plusieurs tours, avec des airs d'opéra, une mélodie, un air classique d'oratorio, une vocalise et puis une séance de travail en quatuor, ce qui est une très belle épreuve parce qu'on peut vraiment tester les capacités d'un chanteur à chanter avec d'autres, à entendre, à respirer avec d'autres. Et puis il y a aussi un déchiffrage redoutable, épreuve de solfège et d'intonation et de musicalité. Et puis enfin un entretien. Donc ce sont vraiment une suite d'épreuves tout à fait exigeantes et mais qui donnent accès à de beaux postes, puisque dans ce chœur, on a la chance de faire beaucoup de belles musiques, et on va d'ailleurs entendre encore tout à fait autre chose, des valses de Paris par le chœur de l'armée française, dirigé par Aurore Tillac.
Thank you.
Merci beaucoup Marc-Olivier pour
je vous en prie, ça,
cette découverte pour certainement nombre de nos auditeurs, le cœur de l'armée française ici avec l'orchestre de la garde républicaine, chronique à réécouter sur francemusique.fr. En attendant de découvrir un autre cœur, sans doute fort probablement, on ira peut-être faire un tour à Nantes la semaine prochaine, tiens, à l'occasion de la folle journée.
En effet.
Merci beaucoup Marc-Olivier, et puis bonne journée.
Merci, vous aussi.
Les femmes du cœur de Radio France, accompagnées ici par Caroline Marty pour ce titre « Quand il reviendra mon homme » de Vincent Scotto, cœur de Radio France qui sera présent dans son intégralité en concert vendredi prochain, le 31 janvier, à la Coursive à La Rochelle. Ils seront pour l'occasion exceptionnellement rejoints par un ensemble de percussionnistes slovènes baptisé Stop, ensemble slovène comme la directrice du chœur, Martina Batic d'ailleurs. Concert à 20h30 avec au programme Carmina Burana de Karl Orff, dans sa version pour deux pianos et percussions, ensemble de chants qui feront vibrer votre corps tout entier.
Musique Matin, Saskia Deville, France Musique.
Bonjour Geoffroy Jourdain.
Bonjour Saskia.
Bienvenue dans Musique Matin. Vous êtes directeur des Cris de Paris, fondateur de cet ensemble original qui s'intéresse au répertoire, on va le voir, hein, vocal et instrumental du début du XVIe siècle jusqu'à aujourd'hui, qui n'a pas peur de sortir des sentiers battus, qui s'aventure dans des projets originaux que nous allons découvrir ce matin. C'était clair depuis le départ, Geoffroy Jourdain, que vous aviez envie d'emprunter des chemins de traverse?
Disons que je pense que c'était là, mais c'était pas clair. Oui, c'est un peu, c'est à force de faire un peu de la place, un peu comme l'inverse de la toile blanche. C'est plutôt en nettoyant un peu qu'on finit par comprendre ce qui était déjà là. Mais et je pense que dans l'état d'esprit général de ces Cris de Paris, peut-être même de la chanson Le Charivari, de la chanson de Jeannequin, qui donne le nom à cet ensemble, il y a effectivement l'idée qu'il peut y avoir des accès multiples à des pratiques vocales multiples et des répertoires multiples et des voilà, et que le projet s'enrichit justement de tous les individus qui y composent cet ensemble.
Quelle peut être peut-être la mission d'un ensemble vocal et instrumental aujourd'hui dans le domaine de la musique classique selon vous, Geoffroy Jourdain?
Ça dépend à quel endroit on place cette mission. Peut-être que c'est en tout cas de faire en sorte que que tout ce qu'on entreprend, que ce soit au concert ou dans notre fonctionnement, disons, on va dire citoyen, soit sincère, nous mette pas dans des postures qui soient trop facilement stratégiques ou prosélytes. Enfin, en répondant comme ça, je dis tout et rien en même temps. Mais l'important, je crois, c'est d'essayer de faire en sorte que, au-delà de la situation du concert, qui reste quand même, je pense, quelque chose qu'on peut remettre volontiers en question, même dans les grandes institutions, il y a une façon d'être au monde, de rendre témoignage de la façon dont la musique habite nos vies, qui n'est pas nécessairement celle des prix de conservatoire.
Vous évoquiez un témoignage, des témoignages, en voici un que vous nous avez apporté ce matin.
Puisque le fil du roi même avec mes sabots m'a demandé, je règne avec mes sabots d'Ordaine, avec mes sabots. Tu vois, puis il y a peut-être encore autre chose.
Ouais. Bravo, mamie.
Un témoignage extrêmement touchant que vous avez collecté. Geoffroy Jourdain, de qui s'agit-il ?
Alors, c'est pas moi qui l'ai collecté, mais les Cris de Paris ont entrepris depuis un bon nombre d'années des projets de médiation culturelle basés en particulier sur des collectages de chants de tradition orale. Et là, en l'occurrence, c'est donc une dame de 93 ans, enregistrée par son arrière-petite-fille, qui chante en passant par la Lorraine.
C'est troublant. Je trouve cette voix est extrêmement émouvante.
Oui, on a l'enregistrement en entier où en plus il y a une sorte de, je sais pas, de vibrato orné, enfin quelque chose d'assez, qui vient à la fois d'un autre temps et en même temps on sent, c'est ça qui est le plus intéressant, l'intimité justement de l'enregistrement. Enfin, on sent qu'elles sont toutes les deux. Je trouve que c'est très très beau. Là, c'est pas du tout il y a différentes façons. On a eu différentes façons de faire ces collectages, mais là en l'occurrence, elles sont toutes les deux. Enfin, il y a personne des Cris de Paris qui est entre les deux
qui
et on
dicte.
Sent. Voilà, et c'est ça aussi que je trouve qui est très beau dans ces collectes, c'est que parfois, au-delà de la chanson elle-même et de la façon de la chanter, il y a quelque chose d'autre qui est raconté.
Et effectivement, ce projet, vous le disiez à l'instant, Geoffroy Jourdain a commencé il y a un petit moment, des chants collectés sur le territoire rémois et en région Grand Est, des berceuses, des comptines, des ritournelles. Pourquoi ce répertoire-là ?
C'est lié à l'histoire d'un projet précis, enfin d'un projet artistique d'écrit qu'on a développé autour de l'ethnomusicologie, le fait, je fais une version très courte, mais le fait que quatre chanteuses écrites de Paris ont entrepris depuis maintenant donc 5 ans d'essayer d'imiter le plus exactement possible des enregistrements d'ethnomusicologues qui ont jalonné le 20e siècle et donc qui peuvent venir d'un peu partout dans le monde. Et autour de ce projet qui s'appelle L'ailleurs de l'autre, qui a été un concert d'abord puis un spectacle mis en scène par Aliénor Dauchet, il y a énormément de ramifications qui se sont développées en termes de médiation culturelle. Là j'évoquais ces collectes, mais par exemple, ces collectes peuvent donner lieu, ça va être le cas bientôt à Reims dans le cadre du festival Faraway, peuvent donner lieu à une installation sonore, enfin c'est-à-dire être diffusées dans le cadre d'une installation sonore où on peut disons forme un corpus dans lequel des compositeurs par exemple peuvent puiser comme Pierre-Yves Massé avec la pièce Jardin partagé.
Et c'est ça dont nous allons parler justement maintenant, évidemment ce projet Jardin partagé. Si on résume très rapidement, des chants ont donc été collectés, Pierre-Yves Massé s'en est inspiré pour composer une cantate en 3 mouvements aux chanteurs, aux instrumentistes des Cris de Paris. Il y a une création prévue, un rendez-vous à noter évidemment, ce sera le 8 février prochain à 14h30 à l'Opéra de Reims. Projet donc de composition musicale. Que raconte cette cantate ?
Alors c'est un cycle de cantates et je pense on peut dire que chacune a en commun de raconter justement l'histoire de ces, enfin toutes les histoires de rencontres qui se sont faites autour de ces collectes, mais enfin tout dépend de l'angle qu'on prend, mais ça raconte évidemment quelque chose des liens entre l'oralité et l'écriture, de la façon dont évidemment toute la tradition de musique dite classique est en fait complètement imprégnée de tradition populaire. Et puis évidemment, la façon dont la musique est, je vais dire des choses très banales, mais en même temps tellement importantes. Évidemment, un endroit où des gens qui sont de cultures différentes, d'origine sociale différente, peuvent se retrouver sans même comprendre exactement de quoi il est question en termes de texte. Voilà. C'est difficile de résumer toute cette aventure en parlant que de la pièce de Pierre-Yves qui... ça ne change rien au fait que je trouve que c'est vraiment un chef-d'œuvre, mais il s'agit de quelque chose peut-être d'un peu plus vaste qui s'est offert à nous et dont on ne mesure pas exactement. Enfin, il n'y a pas de stratégie, c'est-à-dire que il faudrait pas imaginer que les collectes on les a faites pour la pièce de Pierre-Yves Massé. En fait, les collectes, elles se sont faites dans le cadre de dispositifs à chaque fois différents, avec des professeurs de collège, de lycée, avec des associations, des maisons de quartier, et chaque dispositif de collecte en soi est déjà une histoire qui est une façon de regarder la, encore une fois, la place de la musique dans la société, et de ce corpus-là et peut naître une œuvre d'art. Voilà.
Gagili de mala, ingagili tuluni de mala. Yelingenti de gute, yelingenti de gute. Di yelingenti kamo, yelingenti kamo. Atingagili de mala, ingagili tuluni de. Yelingenti de gute, yelinene lingenti de gute, ati igu ngilimi na igu gilimi san ngilimi. Inga gili de pala, inga gili tulungi de pala. Yelingenge mukile, yelinene lingenge mukile. Yelingenge mukile, yelinene lingenge mukile. Ati yelingenti kamo go yelinene lingenti kamo. Ngagili de mbala, ngagili tuluni de mbala, yelingenti de gute.
Un extrait de ce que vous pourrez entendre le 8 février prochain à 14h30 à l'Opéra de Reims. Pierre-Yves Massé à la composition, Les Cris de Paris. Geoffroy Jourdain qui est notre invité pour nous parler de ce très beau projet. Puis, puisque vous serez bien évidemment à l'Opéra de Reims, je rappelle aussi cette installation sonore que vous pourrez découvrir. Vous pourrez écouter plusieurs de ces enregistrements, de ces berceuses, de ces ritournelles enregistrées tout au long de l'élaboration de ce projet-là. Et puis, je pense aussi qu'autour de ce projet, des établissements scolaires seront conviés, Geoffroy Jourdain.
Oui, puisque même si ce projet a abouti à la création de la pièce de Pierre-Yves Massé, ça continue, il y a des ramifications qui continuent à se développer. Et là, en l'occurrence, on sera accompagné, enfin, il y a un travail qui réunit à distance pour l'instant un collège de Nancy, le collège de la CRAF, et puis des lycées de Reims et de Charleville-Mézières. Et ils vont se retrouver pour la première fois, justement, à la Générale pour se montrer ce qu'ils ont réalisé sur, justement, des collectes, des chants qui sont dans la pièce de Pierre-Yves Massé.
Ce n'est en tout cas pas la première fois que vous faites intervenir des amateurs, Geoffroy Jourdain, dans le cadre de vos projets. Il y en a énormément. Il suffit d'aller faire un tour sur votre site internet pour le constater. Je pense aussi notamment, et ça remonte un petit peu, hein, en 2010 à ce projet réalisé avec les détenus de la maison centrale de Clairvaux qui avait vu le jour, avec des œuvres de Thierry Machuel. Créer, c'est aussi évidemment une manière de s'engager. Quels sont peut-être les autres sujets d'actualité qui pourraient inspirer ou donner envie au CRI de Paris de se lancer dans un nouveau projet?
Ben, on a beaucoup d'envie. Encore une fois, on essaye de penser... J'utilise beaucoup ce terme et jamais celui d'éducation artistique et culturelle ou ce type de label, parce que je trouve que le terme de médiateur est bien, c'est-à-dire qu'on essaye de se situer entre des gens ou un artiste, un collectif, un groupe et un autre groupe, et ne pas nous mettre nous en position de sachant ou de pédagogue de nos propres projets artistiques. Donc tout est inventé, c'est en fonction des rencontres. Ce qui est important, c'est que on développe beaucoup de choses à Saint-Quentin en Yvelines, où on est désormais en résidence pour 3 ans, et que là il y a énormément de choses qui se mettent en route autour d'une idée un peu plus qui reste celle de la collecte, mais plus de collecte de bruit de la ville et d'une réflexion sur l'imaginaire de la ville. Encore une fois, l'idée n'est pas d'obtenir nécessairement des résultats, que ça aboutisse à des œuvres musicales, mais en tout cas c'est encore une fois des rencontres, toujours des choses sur l'écoute et sur la voix. Et puis de façon peut-être un petit peu plus traditionnel, mais ça ne le sera pas tout à fait. Je suis de plus en plus convaincu qu'il faut qu'on inclue des compositeurs et compositrices à ces projets de médiation. Et je ne sais pas exactement comment le présenter en quelques mots, mais poser le compositeur dans la cité, c'est-à-dire ne pas être là pour commenter, pour être le trait d'union entre un compositeur vivant, en tout cas quand on fait de la musique contemporaine, et un public, mais justement plutôt donner directement la parole au compositeur. Voilà. Et je crois qu'on est en train d'inventer quelque chose d'une façon de penser la résidence qui serait peut-être un petit peu moins traditionnelle que les fameuses résidences de compositeurs et qui se feront très probablement d'ici 2-3 ans. Je pense qu'on va lancer quelque chose d'assez ambitieux sur le champ en général. Évidemment pas le champ destiné uniquement à des professionnels. En accueillant donc en résidence, dans le cadre de nos opérations de médiation, des compositeurs.
Et puis, il y a un autre compositeur que vous allez poser ce soir à la scène musicale, c'est Henri Schütz. Autre répertoire, évidemment, pour démontrer aussi que les Cris de Paris ne font pas que dans la création. Il y a aussi tout cet autre et magnifique répertoire de musique ancienne à découvrir. Ce compositeur allemand du 17e qui sera au programme de ce concert donc que vous donnerez ce soir à 20h30 à la scène musicale. On va se plonger un peu dans l'ambiance. Et pour terminer cet entretien avec vous, Geoffroy Jourdain, dans cette magnifique musique ici que vous nous avez apportée, interprétée par les voix baroques. Merci beaucoup, Geoffroy Jourdain, d'être venu nous voir. Et puis, on attend de vos nouvelles pour le développement de tous ces projets.
Avec plaisir.
Et bonne journée à vous. Merci de nous suivre sur France Musique. Il est 8h53.
L'heure est trouvée sur le plateau.
Allons-y. Effet 203, top. Entrée du chef.
Et c'est l'heure de la chronique de Roselyne Bachelot. Bonjour Roselyne.
Bonjour Saskia.
Et ce matin, nous allons déboulonner la statue de Don Carlo.
À l'occasion de la reprise à l'Opéra de Paris de Don Carlo, la version italienne de Don Carlos, je vais déboulonner une idole et vous conter la vraie histoire de Charles d'Autriche qui inspira Schiller et donc Verdi. Charles d'Autriche ne ressemblait ni à Jonas Kaufmann ni à Roberto Alagna. Il était difforme, épileptique, d'une laideur repoussante et son caractère profondément instable le livrait à des crises de colère irrépressibles où il faisait montre de grande cruauté. Il faut dire qu'une consanguinité ahurissante sévissait à la cour d'Espagne. Il avait seulement 6 arrière-grands-parents au lieu de 16, et de plus, 2 de ses arrière-grands-mères, Jeanne de Castille et Marie d'Aragon, étaient sœurs. Sa grand-mère maternelle était la sœur de son grand-père paternel, et son grand-père maternel était le frère de sa grand-mère paternelle. Je ne sais pas si vous avez bien suivi, mais enfin bon. À cette lourde hérédité va s'ajouter une série d'humiliations qui vont altérer son caractère violent. Alors qu'il a 13 ans, on lui fait miroiter la perspective d'un mariage avec Élisabeth de Valois, princesse de France, fille de Henri II. Il s'agissait d'un projet éminemment politique destiné à sceller la paix entre l'Espagne et la France, toutes deux épuisées par un interminable conflit en Italie. Las, pour l'infant, sa belle-mère, Marie Tudor, a la bonne idée de mourir en novembre 1558, laissant Philippe II veuf une nouvelle fois. Persuadé, à raison, que son fils est inapte à un tel mariage, il épouse Élisabeth, ses épousailles étant une des stipulations du traité de Cateau-Cambrésis qui signe la réconciliation hispano-française. Quand elle arrive en Espagne, la jeune femme n'a jamais rencontré son beau-fils et il est tout à fait impossible qu'ils soient tombés amoureux l'un de l'autre. La véritable histoire d'amour naquit en fait entre Philippe et Élisabeth et leur union fut heureuse, d'autant que lors de ce mariage, le roi n'avait que 32 ans, bien loin du vieillard cacochyme représenté par Verdi. Charles d'Autriche n'agit donc nullement par dépit amoureux, mais parce qu'il considère cela comme une insulte personnelle. De plus, Philippe II va remettre le couvert. Alors que Charles espère épouser sa cousine, l'archiduchesse Anne d'Autriche, son père s'oppose à nouveau à ce mariage et plus tard, redevenu veuf, épousera celle que son fils convoitait. Pire, Philippe II fait venir ses neveux, Rodolphe et Ernest d'Autriche, et leur promet sa succession. Charles entre alors en rébellion ouverte, prend contact avec les insurgés flamands. A-t-il vraiment tenté d'assassiner son père ? Ce dernier en tout cas en fut convaincu et fit condamner son fils par l'Inquisition et jeter dans un cul de basse-fosse où il va mourir à l'âge de 23 ans, très probablement empoisonné. Don Carlo de Schiller et de Verdi présentent Charles d'Autriche et son ami Rodrigue comme des défenseurs des libertés et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Le dramaturge et le musicien, tout imprégné des mouvements démocratiques et nationalistes du XIXe siècle, transpose ses aspirations à la cour d'Espagne et dans une époque, le XVIe siècle, où elles étaient inconnues. Désolé les amis, résumons-nous, le vrai Don Carlo était un avorton psychopathe, il n'a jamais été amoureux d'Élisabeth de Valois, pas plus que celle-ci ne l'a aimé, il se moquait bien des Flamands, n'a complété que pour se venger d'un père détesté qui voulait le priver du pouvoir absolu qu'il espérait bien récupérer. Alors, pour nous consoler, le plus beau duo d'amour entre deux hommes du répertoire lyrique, Roberto Alagna et Étienne Dupuis, Carlo et Rodrigue, forever.
Et oui, il nous reste la musique, chère Roselyne. Merci beaucoup pour cette chronique, cet avant-goût de notre soirée opéra sur France Musique ce soir à 20h avec Judith Chen. Très belle journée à vous et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Saskia.
Et je termine cette émission bien accompagnée. Roberto Alagna, Étienne Dupuis, Sion Duo, avec un extrait du Don Carlo de Verdi. Quelques mots avant de se quitter, notamment sur ce concours. Je vous offrais des places pour la Folle Journée de Nantes ce matin pour le concert que le trio Carignan offrira le 1er février prochain. Il fallait deviner d'où vient le nom de ce trio Karénine, évidemment d'une grande héroïne du roman de Tolstoï. Vous avez été nombreux à participer. Les gagnants seront recontactés par email. Merci à toute l'équipe. Merci à Marie-Ferdinand, Laurent Lefrançois, Valérie Lavalard, Cindy Le Grumelec et Morgane Danan. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous être fidèles sur France Musique. Je vous souhaite une très très belle journée.
À réécouter sur francemusique.fr.